Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce qu'en ce jour ta parole est encore prêchée sur la terre des hommes. De ce qu'en ce jour, Seigneur, tu appelles à la vie, tu appelles à la résurrection, tu donnes ce miracle, Seigneur, de l'espoir fondé dans tes commandements, de l'espoir fondé dans ton alliance et tes promesses. Ô Dieu vivant, je te loue et je te rends grâce. Parce que ton jour vient, parce que notre délivrance est à la porte, parce que tu te glorifies, tu as dépouillé les autorités, les dominations, et nous proclamons ta victoire. Je proclame maintenant la victoire de Jésus sur toute âme captive. Je proclame la libération des corps. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois renouvelé. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit agisse maintenant. Au nom de Jésus! Amen. Le Saint-Esprit est présent. Amen. Jésus manifeste toujours sa présence par la sainteté. Amen. L'Esprit est saint. Amen. Et rien d'impur ne peut tenir devant sa face. Amen. Aucun mauvais esprit ne peut tenir en sa présence. Aucune douleur ne peut subsister. Lorsque Jésus est là, il se passe toujours quelque chose dans la sainteté de Dieu. Tu ne repartiras pas de ce lieu sans ta bénédiction. Tu repartiras avec ton miracle. Dieu est un Dieu d'autorité et il donne l'autorité à ses enfants. Nous avons un message aujourd'hui. C'est le message de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce message, nous allons le trouver dans les anciennes alliances, ou plus précisément dans la première alliance, qui était l'image prophétique du Messie qui devait venir. Toute l'ancienne alliance contient l'ombre des choses à venir. Tous les enseignements de l'Ancien Testament nous montrent les réalités spirituelles et les principes spirituels dans lesquels l'Église corps de Christ doit rentrer. La lumière des anciennes alliances, c'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Regardons ce qui se passe dans le livre de l'Exode, au chapitre 28. Dieu parle à son serviteur Moïse. Et Dieu donne une direction à son serviteur, afin que le peuple soit béni. Exode chapitre 28, nous en ferons la lecture à partir du verset 15. Voici ce que Dieu déclare. Tu feras le pectoral du jugement. Artisanalement travaillé, tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or et de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacun avec le nom de l'une des 12 tribus. Amen. Si nous comprenons le sens spirituel, nous serons bénis. Si nous restons au sens scripturel, nous ne pourrons pas entrer dans notre bénédiction. Dieu avait ordonné de composer 6 vêtements pour le service sacerdotal, pour s'approcher de Dieu et faire le service pour le peuple. L'homme de Dieu devait être revêtu de 6 vêtements. Et précisément, un de, ces six vêtements comportait des objets qui vont nous parler ce matin, des pierres précieuses qui vont nous enseigner et qui vont nous aider à entrer dans la foi. Dieu utilise toujours des images merveilleuses pour discipliner notre foi, pour instruire notre intelligence. Toute la Bible est renfermée dans l'espoir de la vie et de la bénédiction. Et Dieu prend un soin particulier à détailler chacun des aspects de cette bénédiction afin que nos mentalités soient éduquées et que nous réagissions par la foi et que par la foi nous comprenions ce qui se passe dans le monde spirituel. L'Ancien Testament nous montre que pour s'approcher de la présence de Dieu, il faut du rituel. Sans le rituel, il était impossible de plaire à Dieu, il était impossible d'entrer en sa présence, il n'était pas possible d'être au bénéfice de sa gloire. Tout ce rituel nous montre quelque chose de spirituel. Et ce que nous savons, c'est que dans la nouvelle alliance, dans la grâce de Jésus-Christ, il n'y a plus de rituel. Dieu ne veut plus le rituel. Le rituel a été l'ombre des choses à venir. Et si nous demeurons dans le rituel, nous faisons naufrage. Tous ceux qui font naufrage dans l'Évangile, beaucoup sont ceux qui, de la main droite, tiennent la Bible et l'Évangile, et de l'autre côté de la main gauche, tiennent le rituel. Tant que tu mélangeras le rituel avec le saint, tu feras naufrage. Et tant que ta foi aura besoin d'être appuyée sur du rituel, tu ne progresseras pas. Tu seras lié. Dieu veut nous rendre forts par la foi, dans l'espérance que nos prières sont entendues, dans la foi ferme et l'assurance ferme que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant, qu'il est à la droite du Dieu vivant et que l'entrée est libre dans sa gloire pour tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Dieu veut écarter de nos vies spirituelles toute forme de religiosité. Le rituel se cache derrière la religiosité. Lorsque nous faisons les choses par habitude, nous commençons à mettre la foi dans notre habitude. Je viens à l'église par habitude et je n'ai plus foi en la grâce de Dieu, je commence à avoir foi en mon rituel. Je suis protégé, n'est-ce pas, parce que je viens m'asseoir sur les bancs de l'église. Mais le restant de la semaine, que se passe-t-il? Ton rituel te perdra. Enfant de Dieu, comprends bien la pensée de l'Éternel. Jésus revient bientôt. Il enlève une église sainte. Il n'enlève pas celui qui est la main à la charrue et qui a gardé une main derrière. Vers ses anciennes habitudes, tu ne peux pas partager ta vie. Tu ne peux pas être assis entre deux chaises. Et lorsque tu lis l'Ancien Testament, tu dois comprendre que tout le rituel a été autorisé pour ton apprentissage et uniquement pour ton apprentissage, afin que la foi en toi prouve que que nous n'avons plus besoin ni d'habitude, ni de rituel, mais que Dieu nous renouvelle d'une huile fraîche. Aujourd'hui, tu n'es pas venu par habitude, tu es venu parce que Dieu a préparé une huile fraîche, une huile d'onction renouvelée, le renouvellement de sa présence. Ça, c'est ce qui est bon. Dans ce vêtement sacerdotal, se trouvait devant une poche, un peu un double compartiment. Et dans cette poche, curieusement, nous y trouvons les objets de la justice, des objets qui vont permettre de connaître la volonté de Dieu. Nous trouvons cela un peu plus loin dans notre même chapitre, au verset 30. « Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le tumim. Qu'est-ce que cela signifie ? Et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. » Dieu voulait montrer là une réalité spirituelle extraordinaire. Urim veut dire lumière et Tumim veut dire perfection. Dieu a mis la lumière et la perfection dans chacun de nos cœurs. Lorsque le peuple de Dieu avait un problème avec la volonté et le discernement spirituel, il était obligé de se conformer à un rituel, parce que la grâce de Dieu n'était pas encore répandue sur toute chair et le Saint-Esprit n'était pas encore venu habiter toute chair. Donc les gens devaient venir voir l'homme de Dieu, devaient venir le consulter, et par un rituel, l'homme prenait ces deux objets dont on ignore l'origine exacte, on ne sait pas, même les grands exégètes juifs ont essayé de savoir ce que c'était, peu importe, c'est peut-être des os ou des pierres, peu importe. Il prenait ses ustensiles, il les jetait par terre, et en fonction de la position qu'il prenait, Dieu parlait. Et il y a des gens comme ça qui pensent que parce que Dieu parlait de cette façon, il parle encore aujourd'hui de cette façon. Ils ne font qu'un retour en arrière. Ils ne se mettent que sous la loi. Dieu veut nous affranchir de la loi. Lorsque Dieu dit qu'il nous affranchit de la loi du péché, cela veut dire qu'il nous affranchit de tout rituel et de tout espoir mis dans la chair, mis dans les pierres qui ne peuvent parler, mis dans les objets de bois qui n'ont ni respiration ni avenir. Ce que Dieu veut, c'est que nous réalisions que nous avons tous en nous la capacité de discerner la volonté de Dieu et que nous n'avons besoin d'aucun support spirituel. Nous pouvons venir auprès de Dieu et nous savons qu'en nous se trouve la lumière et la perfection. Dieu a mis la perfection dans ton cœur. Cesse de croire que tu ne vaux rien. Cesse de croire que tu n'as pas reçu l'onction de l'Esprit et que tu ne peux pas avoir de discernement dans les choses de l'Esprit. Il y a tellement de chrétiens qui se lamentent et qui ne considèrent pas cette parole. Le royaume de Dieu est en toi. Dieu a mis la lumière et la perfection en toi. Tu as la capacité, si tu es dans l'obéissance, de discerner ce que Dieu veut pour ta vie. Il faut cesser de se lamenter et d'aller voir les ministères en pensant qu'eux ont l'onction et qu'ils auront toujours le truc magique pour donner la révélation. Il y a des gens qui viennent vers moi et qui disent « Guéris-moi » ou « Parle-moi au nom de l'Éternel ». Mais je dis « Pauvre chrétien !» Je dis « Insensé !» L'homme n'est rien, il n'est que le véhicule de la grâce, et il ne véhicule la grâce qu'au moment où Dieu le décide. Tout est par grâce, je n'ai aucun pouvoir. Le pouvoir est sur l'Église, la lumière est dans chaque cœur. Cesse de croire que tu es un vaurien, cesse de croire que ta vie n'est que faite qu'au trouble et au péché. Cesse de te regarder dans une glace le matin ou le soir quand tu te couches en maudissant ta vie. Crois ce que la parole de Dieu affirme. Le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs. Si tu crois le Seigneur Jésus, Si tu confesses qu'il est ton sauveur, la chose est simple, tellement simple que nous la compliquons. L'ennemi de nos âmes veut toujours compliquer les choses. Il veut nous faire croire qu'il y a une démarche compliquée. La grâce, c'est la simplicité. En un instant, ta vie est balayée. En un instant, le Seigneur a mis la lumière sur ton passé. Il a couvert d'une page blanche ton passé. Son sang a coupé tous les liens. Cessons de chercher, de fouiller. J'ai toujours un problème avec ce mot de cure d'âme. Bien sûr, nous utilisons ce mot. Mais ce mot n'est pas approprié en fin de compte. Allez curer l'âme. Il n'y a que Dieu qui a le droit de sonder les cœurs et les âmes. Ne permet jamais à personne d'aller faire de la curée dans ta vie. Garde ton intimité et la foi. Ton passé n'a plus aucun pouvoir sur ton présent. Et tu as en toi la possibilité de discerner la volonté de Dieu. Il n'y a plus d'instrument magique. Il y a le Saint-Esprit sur ton cœur. Et lorsque tu interroges Dieu, le Saint-Esprit te révèle la volonté. Qui sont les chrétiens qui mettent constamment des toisons devant eux? Ce sont des chrétiens qui sont encore des enfants. Excusez-moi de vous dire cela, mais je vous le dis au nom de l'Éternel. Nous sommes des enfants tant que nous n'avons pas dans nos cœurs cette ferme assurance que Dieu tient notre vie. Et tant que nous avons besoin d'avancer avec des signes, cela ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que nous avancions par la foi. Dieu donne des signes dans son amour. Dieu donne des toisons dans son amour, bien sûr. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est ta communion et ton intimité avec le Saint-Esprit. Plus je suis en intimité avec le Saint-Esprit, et plus j'ai les confirmations à l'intérieur. Et les signes extérieurs ne sont que la soumission à ma foi. Ce ne sont pas les signes extérieurs qui motivent ma foi, c'est moi, avec la foi que Dieu me donne, qui oblige les signes extérieurs à se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Voilà que sur ce pectoral, voilà que ce qui couvrait l'Ourim et le Thourim fut 12 pierres précieuses, 4 rangées de 3. Ces 12 pierres précieuses représentaient, ils étaient le symbole de la richesse de Dieu. Lorsque le peuple venait, qu'il voyait l'habit sacerdotal, il voyait ces pierres précieuses, sa foi était motivée. Sa foi prenait un support. Parce que le peuple de Dieu comprenait qu'à travers ces 12 pierres précieuses étaient contenues toutes les richesses du royaume de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il faut constamment revêtir le rituel de la robe, et peut-être le rituel de la robe nous donnera une onction particulière. Ce qui te donne l'onction, c'est la foi, je le répète. Il faut que tu saches que ces 12 pierres précieuses sont en toi. Et j'espère qu'il y a bien ces 12 pierres précieuses. Nous allons voir et comprendre leur signification. Si Dieu le permet, nous allons entrer dans les profondeurs de ce texte. Et nous allons voir une chose surprenante. C'est qu'il y a une créature de Dieu extraordinaire. Avant que le monde ne fût, avant que l'homme n'ait le souffle et la respiration, un ange de lumière, qui lui avait à sa disposition ces pierres précieuses. Et pourtant, la Bible nous montre qu'il n'a touché qu'à 9 des pierres précieuses. Il n'a pas voulu toucher à 3 qui sont essentielles. Tu vas comprendre cela. Si tu ne touches pas à ces 3 pierres essentielles, tu auras vraiment un problème avec Dieu. Commençons notre visitation de ces pierres. Il y a la sardoine qui correspond à la tribu de Ruben. La sardoine nous montre que Dieu est le Dieu de paix. Ruben voulait dire vie. Ruben était l'espoir de la vie. Dieu, lorsqu'il vient, Il nous donne toujours l'espoir de la vie. Les mensonges du monde et les mensonges de l'ennemi nous apportent la mort. Mais Dieu nous appelle à la vie. Et il nous appelle à la vie par la transmission de la parole. Je crois parce que j'entends la parole. Si la parole est pure, la parole me communique la vie. Si l'eau est pure, elle ne me communique pas de maladie. Si l'eau de la parole est souillée, elle va me communiquer de la maladie. Faisons très attention à ce que nous entendons de la parole. Il y a tellement de déviations sur déviations et déviations. Dieu est fatigué de ces déviations. Dieu est fatigué de ces gens qui se mettent à l'image de Satan pour utiliser 9 pierres et en laisser 3 de côté. Lisons maintenant dans Ézéchiel 28. Je vais mettre en parallèle ces 2 passages. Ils sont simples à retenir. La Bible est merveilleusement découpée. Dieu a inspiré le découpage des versets bibliques et des chapitres. Exode 28 et Ézéchiel 28. La vie et la corruption. La vie et l'évangile souillé. Il est temps de sortir de nos ornières et de nos aveuglements. Il est temps de faire tomber le masque. Dieu est saint. Et le Saint-Esprit vient là où il y a la sainteté. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et au verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Péché veut dire, dans le terme exact, commercer. Lorsque l'ennemi nous pousse au péché, il nous pousse au commerce. Nous faisons un commerce avec notre vie, nous faisons un commerce avec le plaisir, nous faisons un commerce avec un soi-disant bonheur. Mais lorsque nous commençons à commercer dans les choses qui ne sont pas de Dieu, nous faisons faillite et nous faisons naufrage. Il s'agit ici du texte qui désigne l'ange déchu, vous l'avez compris. Au passage, je mettrai l'accent sur le fait qu'il est indéniable de dire que l'ange de lumière avait très probablement cette fonction de louange dans le ciel. Il était là pour diriger la louange dans le ciel. Et après sa chute, il n'a pas eu la possibilité de louer Dieu. Sache que la louange a une puissance extraordinaire sur le simple fait que lorsque tu loues Dieu, l'ennemi est obligé de fuir parce qu'il se rend compte que c'était une fonction tellement importante qu'il avait et qu'il a perdue. Fais attention à ne jamais perdre les fonctions que Dieu te donne. Parce que lorsque tu verras d'autres avec les fonctions que tu as perdues, tu seras rempli d'amertume. Et il te faudra vraiment te repentir. J'ai vu des gens comme ça. Des ministères qui n'ont pas été sérieux. Des diacres et des anciens qui n'ont pas été sérieux. Et en voyant le sérieux des autres, ils ont été remplis de jalousie et de haine. Que Dieu bannisse ça de nos cœurs par le sang de l'agneau et la repentance. Soyons des gens sérieux. Le monde se rit de voir parfois notre légèreté. Notre sainteté sera un témoignage. L'ange déchu était au contact de toutes les pierres précieuses. Et pourtant, il n'en est que 9 de cité. Autrement dit, l'opale, l'agate et l'améthyste ne sont pas cités. Dieu avait donné cela à sa disposition. Mais le diable ne pouvait pas s'approcher de ces 3 pierres-là. il pouvait jouir des autres pierres, il pouvait en avoir le bénéfice et la gloire, mais trois étaient un problème pour lui. Comme beaucoup de chrétiens qui jouissent de certaines choses de l'Évangile, mais qui ne veulent pas toucher à d'autres choses de l'Évangile qui sont pourtant les plus importantes. On peut s'amuser avec Jésus. On peut même prendre le nom de Jésus en vain et faire croire que nous suivons l'Évangile, mais nous nous trompons nous-mêmes. Ruben, c'est la paix. Dieu donne la paix parce qu'il donne la vie. L'Apocalypse nous montre au chapitre 4 et au verset 3 que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Dieu a toujours fait alliance avec l'homme. Et la première fois que Dieu a fait alliance avec l'homme, ce fut le jour où il sauva Noé des eaux. Pour montrer le signe de son alliance, il a permis qu'un phénomène surnaturel se produise et extraordinaire, un arc-en-ciel que nous pouvons encore voir de nos jours. L'arc-en-ciel est le signe de la paix qui couvre la vie des hommes, la paix qui est la couleur de joie et de réjouissance. Dieu couvre ta vie de la paix. La sardoine est l'image de cette pierre précieuse qui t'est offerte. Lorsque tu verras peut-être des pierres précieuses qui sont périssables en ce monde, tu ne les verras plus comme un objet de gloire et comme quelque chose de précieux qui doit passer. Tu te souviendras qu'à travers ces pierres, Dieu te parle. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait « Il vaut mieux que les femmes soient revêtues d'œuvres de justice plutôt que d'être revêtues de parures qui sont éclatantes à l'œil, mais qui ne reflète pas la vie réelle du chrétien. » Ces perles ont été données par Dieu, ces pierres précieuses ont été données par Dieu, uniquement pour nous montrer un bienfait spirituel. Et lorsque nous regardons ces pierres, nous avons une certaine joie. Cela produit une certaine beauté. Sais-tu que ce n'est rien à côté de leur réalité spirituelle ? Sais-tu que lorsque quelqu'un vient vers toi et qui n'a pas la paix, lorsqu'il voit la paix briller en toi, c'est la chose la plus extraordinaire. Il y a des gens qui perdent toute leur vie à chercher la paix et qui ne la trouvent jamais. Ils pourront te raconter ce que c'est que d'avoir le privilège de la paix. La topaze, c'est la tribu de Siméon. Il nous représente la sagesse. Siméon veut dire qui écoute, celui qui écoute. La sagesse. Dieu veut nous apprendre. Dieu fait cela dans un but, nous rendre sages. Si tu es sage, tu poseras de bons fondements dans ta vie. Si tu es dépourvu de sens, tu perdras la vision de la parole et tu t'égareras dans des attitudes et des actions qui ne sont absolument pas sages. Combien de gens font des erreurs parce qu'ils manquent de sagesse? Écoute la parole, écoute lorsqu'elle est prêchée et demande à Dieu de mettre dans ton cœur de la sagesse en toutes choses. L'homme insensé et celui qui n'est pas éclairé par la sagesse de Dieu. Dieu nous donne de la sagesse, croyons-le. Dieu le fait pour nous parce qu'il nous aime. Et il a mis sur chacune de nos vies l'empreinte de sa sagesse. L'émeraude, c'est les vies. Cela représente l'amour. Dieu nous aime et nous le savons. Mais que signifie cela? Que veut dire Dieu nous aime? Que veut dire Dieu a répandu le sang de son Fils pour nous? Cela veut dire que nous devons apprendre à nous respecter nous-mêmes et à nous aimer nous-mêmes. Si tu dis aimer Dieu, tu dois aussi aimer ta vie. Aimer ta vie dans le sens de la protéger, Dieu a aimé l'humanité dans le sens où il a protégé l'humanité. Dieu n'a pas aimé l'humanité dans le sens où il a voulu faire plaisir à l'humanité, où il a voulu la conforter dans ses erreurs. L'amour sans vérité n'est pas l'amour. Nous savons que dans le texte grec, il y a trois mots appropriés et spécifiquement appropriés à l'évangile pour désigner l'amour. Il y a l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, l'amour parfait. Celui qui descend du trône des Lumières et que nous ne pouvons absolument pas fabriquer. Il y a l'amour philéenne qui est en dessous. C'est l'amour humanitaire, l'amour que nous fabriquons pour notre prochain. Si cet amour n'est pas empreint de l'amour agapé, il ne vaut rien. Tu ne vaux rien si tu fais par tes propres œuvres. Tu ne pourras pas changer la vie de quelqu'un. Parce que tu n'as aucun pouvoir en toi. Si tu veux aimer ton prochain, il faut que tu l'aimes selon la Bible. Il faut que tu l'aimes selon les principes de la Bible. L'humanisme. Dieu veut être présent pour guider l'humanisme. Nous pouvons travailler et travailler en vain. Si ton amour est philéen, il sera vain. Il ne produira que très peu de résultats. C'est lorsque j'ai compris que je devais aimer le peuple de Dieu dans la vérité et dans l'agapé de Dieu que le produit de ma prédication a pu donner du fruit et du fruit qui dure. L'agapé produit un fruit qui dure. L'amour humanitaire ne produit pas un fruit qui demeure. La Bible est formelle sur ces choses. Et le troisième, c'est l'amour éros. Savons tous ce que cela veut dire. L'amour éros. Il y a des homosexuels qui viennent me voir et qui me disent « Je ne comprends pas, c'est vraiment l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cet amour entre lui et moi, entre elle et moi. » Il y a des gens dans l'adultère qui viennent et qui disent « Mais je suis dans la confusion. » Oui, tu es vraiment dans la confusion. L'amour peut être corrompu et tout amour n'est pas de Dieu. L'ennemi avait pris cette pierre précieuse et il l'a gardée à son côté pour le corrompre. Il y a des amours illégitimes avec lesquels il ne faut pas plaisanter. Jamais Dieu mettra de l'amour dans un cœur si cela est illégitime, si cela est du péché. Lorsque Dieu donne l'amour, il contente tout le monde. Si tu aimes une autre femme, ta première femme n'est pas contentée. Et peut-être tu crois qu'il y a de l'amour d'un côté, mais il y a de la souffrance de l'autre. L'agapé de Dieu répand l'amour pour tous. Et ne permet pas la souffrance au détriment de l'amour. Cette pierre précieuse, mes amis, l'ennemi l'a gardé, il l'a corrompu. Leur tourne, je vais aller un peu plus vite, il y aurait tellement de choses à dire. Le saphir, c'est l'autorité. Dans Ézéchiel 1, 26, il nous est parlé de cette pierre. Vous savez, dans la Bible, on a vraiment très peu d'indices pour savoir exactement la signification de ces pierres. Il m'a vraiment fallu me tenir devant Dieu pour ne pas dire d'erreur. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment être dans l'exactitude, parce qu'il faut plonger vraiment au fond de la parole pour comprendre la signification de ces pierres. Mais quand nous voyons l'histoire d'Israël et des 12 tribus, nous voyons que vraiment ils avaient la prédestination de la gloire pour chacune de ces grâces. La paix, la sagesse, l'amour, et voilà l'escarboucle, pardon, j'ai sauté l'escarboucle. C'est la quatrième pierre, elle représente Judas, et cela représente la louange. Vous trouverez ça dans Ésaïe 54, 12, dans le psaume 100, verset 4 également. L'escarboucle nous montre la louange. Dieu nous donne un sacerdoce de louange. L'Église est un sacerdoce de louange. Dieu se plaît à entendre la louange de son peuple. Le cinquième, le saphir, c'est l'autorité, le trône, Ézéchiel 1, 26. Dieu nous donne un trône de justice. Dieu nous donne un trône d'autorité. Le chrétien affermi est celui qui va considérer que Dieu lui a donné de l'autorité. Il ne permettra pas à l'ennemi ou au péché d'avoir autorité sur lui. Je le disais hier, à juste raison, l'amour est un lien. Tout ce que tu aimes, tu es lié à cette chose. Si tu aimes le Seigneur, tu es lié à lui. Si tu aimes ton péché, tu as un lien de l'autre côté. Des fois, nous voulons tellement chasser l'ennemi. Oh, le diable a le dos large, hein. Il se réjouit même qu'on lui attribue tous les problèmes. N'a rien à faire dans cette histoire. C'est ton amour qui compte et ton autorité dans ce que tu aimes. Tu es lié à ce que tu aimes, et tant que tu n'auras pas l'autorité de renoncer à ce que tu aimes, si ce n'est pas la gloire de Dieu, tu seras dépourvu du saphir. Le saphir est l'autorité. Lorsque tu as l'autorité, Dieu le voit. Lorsque tu as l'autorité, le monde spirituel le voit. Il n'y a pas besoin de crier ou de gesticuler. L'autorité se voit. Tu vois ça dans le monde, ceux qui sont en uniforme, ils n'ont pas besoin de te crier après. Ils n'ont pas besoin de te courir après. Leur simple uniforme montre l'autorité. Le chrétien qui a l'autorité, ça se voit. Il n'a pas besoin de faire de cinéma ou de se rouler par terre. Il n'a pas besoin de pousser des cris d'animaux. Vous savez, le grand problème qu'a eu l'apôtre Paul et les premiers disciples, c'est que ils ont été confrontés à la persécution physique des gens qui étaient là, qui gouvernaient le pays, ou plutôt qui avaient mis la main sur le pays d'Israël. Mais le plus gros problème, c'est la confusion spirituelle qui était introduite par la loi judaïque. Tous ceux qui avaient gardé les préceptes de la loi et qui n'avaient pas compris que cela devait être glorifié dans la grâce. Ils étaient dans le rituel. Et à cause du rituel, ils sont rentrés dans la confusion religieuse. Et ce que Dieu nous met, ce que Dieu fait actuellement, c'est qu'il nous met en garde. Parce que la dernière vague de persécution la plus terrible avant le retour de Jésus, c'est la persécution spirituelle. C'est la confusion dans la parole. Nous avons à lutter contre l'esprit de la grande Babylone dans Apocalypse 18, cette prostituée, qui est sur la bête écarlate et qui en fait introduit la confusion. Tout esprit de confusion est terriblement dangereux. Lorsque nous prenons la parole de Dieu pour en tordre le sens, nous sortons de l'autorité du saphir pour entrer dans l'autorité de la confusion. Que Dieu nous protège de toute confusion et que Dieu nous donne la liberté avec l'autorité pour la vérité. Le sixième élément, c'est le diamant qui représente la loi. Ézéchiel 3:9, Zacharie 7:12 nous montrent que la loi était sur le cœur et sur le front. Cela nous parle du commandement de Dieu qui demeure. La loi est accomplie, mais le commandement demeure, mes amis. Celui qui dit aimer Jésus et qui n'écoute pas ses commandements est un menteur. Si tu viens t'asseoir là pour avoir quelques bénédictions ou quelques guérisons et que tu retournes chez toi pour commettre le mal, tu es un menteur. Restera-t-il un peu de sang pour te purifier? Si tu t'obstines, j'en doute. Écoute bien ce que je te dis. Si tu t'obstines à bafouer la grâce dimanche après dimanche, je doute qu'il reste encore quelques espoirs pour toi. Tu seras peut-être sauvé comme au travers des flammes. Mais prends bien garde de ne pas perdre ta récompense. On ne joue pas avec Dieu. Les trois points, l'opale, l'agate et l'améthyste, nous parlent de la tribu de Dan, de Gad et d'Azer. La tribu de Gad avait ceci de particulier, c'est sa fidélité. Et voilà le mot. Ces trois pierres précieuses représentent à elles seules trois aspects de la fidélité. La fidélité au Père, la fidélité à Jésus-Christ et la fidélité au Saint-Esprit. C'est facile d'être fidèle à un Dieu lointain. C'est plus difficile d'être fidèle à un Dieu qui est révélé par Jésus-Christ, afin de confesser son Fils. C'est encore plus difficile de marcher avec Jésus par la direction du Saint-Esprit. L'ennemi n'a pas pu toucher à la fidélité. Ces trois pierres précieuses étaient terribles pour lui. Et c'est ce qu'il a perdu. Il était avec Dieu. Il jouissait des richesses de Dieu. Mais il y a une partie des richesses absolues auxquelles il ne pouvait toucher et auxquelles il ne peut encore à ce jour toucher parce que sa condamnation est écrite. Si tu es infidèle, ta condamnation, mon ami, risque d'être écrite. Si tu ne peux toucher à ces joyaux précieux, il faut vraiment que tu te repentes devant le Seigneur. La fidélité, c'est l'élément indispensable. Si tu es un enfant de Dieu, tu auras les 12 pierres. Et au centre, ces trois pierres demeureront, car elles constituaient le centre du pectoral. Elles étaient au centre et entourées par les autres pierres. Elles sont le centre, la fidélité. Le texte grec utilise le même mot pour fidélité et foi, pisti. Et ce qui est surprenant, c'est que Dieu, dans sa volonté, a voulu qu'en hébreu, il y ait la même racine, emet, qui veut dire exactement foi et fidélité. En hébreu ou en grec, foi et fidélité sont exactement la même chose. Si tu dis avoir la foi, tu dois montrer une conformité de fidélité. Si tu as foi dans l'amour de tes enfants, tu dois leur être fidèle. L'homme bienheureux est celui qui se retire le pain de la bouche pour le donner à ses enfants affamés. Le pasteur bienheureux est celui qui sacrifie sa vie pour les autres et celui qui prend de sa bourse pour nourrir. Il n'est pas celui qui prend l'argent dans vos porte-monnaies. Il n'est pas celui qui vous dépouille. Il est celui qui vous donne. Église de Dieu, je suis venu ici pour te donner. J'ai accepté de faire 8000 kilomètres parce que je t'aime et parce que je suis fidèle. Je suis venu lorsque Dieu me l'a demandé. J'ai été confronté à ce message et Dieu m'a dit, toucheras-tu à ces pierres? J'ai dit oui, Seigneur. Dieu a sûrement parlé à Jésus dans le ciel avant qu'il ne donne sa vie. Il lui a dit, mon fils, j'ai besoin de toi. Iras-tu sauver ces hommes? Vois la souffrance que tu dois endurer. Jésus a dit, mon Père, je serai fidèle. Il a été fidèle en toutes choses. L'infidélité ne l'a jamais corrompu. Pourquoi Dieu nous parle tellement d'adultère dans l'Ancien Testament? Parce que c'est ce que Dieu réprouve le plus. L'infidélité. Parce que Dieu sait que l'infidélité est ce qui perd l'homme et ce qui l'écarte de la grâce. Ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est toi-même qui te condamne. Ce sont tes œuvres qui te condamnent. Si tu te repens, si aujourd'hui tu es touché par le Saint-Esprit et que tu dis, Seigneur, je veux être fidèle, j'ai peur parce que tu m'as montré dans Ézéchiel que l'ange déchu a été déchu à cause de sa infidélité. Il n'a pas voulu rester obéir à Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Il touchait à l'Évangile. Mais cela, il n'a pas voulu le toucher. Il y a des gens qui touchent à l'Évangile, qui sont capables de parler de paix et d'amour merveilleusement, qui sont capables de parler de la louange, de l'autorité spirituelle. Mais sont-ils fidèles? Dieu est intéressé par cela. Il voit, il te regarde de près. Il regarde ton cœur. Mon enfant, tu es bienheureux, car j'y vois la fidélité. Je terminerai avec les trois autres pierres, chrysolites. C'est la tribu de Nephtali, vous pourrez voir et comprendre que c'est l'équilibre. C'est la roue et le corps d'Ézéchiel 10, verset 9 et de Daniel 10, 6. Ces visions merveilleuses qui nous parlent des pierres qui sont là pour montrer l'équilibre. La vie spirituelle doit être équilibrée. Toute vie spirituelle et tout chrétien déséquilibré est sectaire. Et il est en honte à l'Évangile. L'équilibre, mes amis. Dieu nous respecte. Dieu pourrait me prendre et me jeter par terre. Il ne le fait pas parce que Dieu est un Dieu équilibré. Qu'il te jette par terre dans ta chambre de prière, ce sera suffisant. Et s'il te jette par terre ici, relève-toi guéri. C'est ça qui m'intéresse. L'onyx, c'est la tribu de Joseph, c'est la sécurité. C'était ce qui était sur chaque épaule de l'éphod dans Exode 28, 9. Le jaspe, c'est la beauté. Apocalypse 21, 11 nous parle de cela. La beauté. Dieu embellit nos vies. J'ai vu des gens tellement moches, tellement laids par le péché, venir à la grâce et au bout de quelques mois, métamorphoser. Leur visage même avait changé. Dieu nous rend beaux. Et je suis désolé d'être beau. Oh, mes amis, mes frères, mes sœurs, il y a un espoir extraordinaire pour votre pays. Parce que Dieu est juste. Et parce que Dieu a entendu les cris de vos cœurs. Je vous remercie vraiment d'avoir été à l'écoute du Saint-Esprit. Je remercie beaucoup le pasteur d'avoir permis que je prêche ici. Vous savez, vous avez un bon pasteur, je ne vais pas lui mettre de la pommade dans le dos. Mais je voudrais vous dire une chose. La Bible affirme qu'il faut qu'il soit peu nombreux ceux qui enseignent. Parce que l'esprit de confusion est très vite répandu. Et vous savez que mon frère et moi et tous ceux qui sont pasteurs ici, nous allons rendre compte sur deux plans. Vous, chrétiens, vous rendrez compte de votre vie. Nous, nous allons passer, nous allons rendre compte de notre vie. Et au moment où nous allons vouloir rentrer dans la grâce, le Seigneur va nous attraper par l'épaule. Hé, reste ici. Maintenant, je vais ouvrir le dossier de ton église. Je vais te rendre compte des âmes que je t'ai confiées. Pourquoi as-tu laissé prêcher n'importe quoi? Pourquoi n'as-tu pas été sensible à l'esprit? Pourquoi as-tu eu peur des hommes? Pourquoi as-tu voulu faire de la foule? C'est sérieux, mes amis. Je me réjouis de toutes les églises qui sont très attentives et qui protègent leurs enfants. Moi, je protège mes enfants et je ne vais pas aller permettre à n'importe qui de nourrir mes enfants. Je veux savoir quelle nourriture il leur donne. Dieu vous bénisse.
Amen, amen, amen. Baissons la tête dans la prière, s'il vous plaît. Père, nous sommes devant toi. Merci pour la sagesse de ta parole, Seigneur. Et cette sagesse, tu la communiques à tes serviteurs, afin qu'en eux, en retour, la communiquent aux autres. Seigneur, ta parole est la vérité. La question se pose à chacun d'entre nous, ô Dieu. Sommes-nous fidèles? Et je ne voudrais pas terminer ce culte maintenant sans faire un appel à tous ceux qui sont ici. Es-tu fidèle? Examine ton cœur, frère, sœur. Tu n'es pas fidèle? Reconnais-le et lève-toi là où tu te trouves. Tu n'es pas fidèle? Lève-toi. Que Dieu vous bénisse. Tu n'es pas fidèle? Lève-toi en signe de repentance. Je sais. Après chaque prédication, ici à la borne, nous faisons un appel. Je le sais, mais ce n'est pas par habitude. C'est devant Dieu que nous sommes maintenant. La fidélité est quelque chose qui manque tellement aujourd'hui. Influencés que nous sommes par tous les courants divers de ce monde, le matérialisme, les fausses doctrines, le laisser-aller, la convoitise de la chair, la fatigue naturelle, on n'est pas fidèle. On n'est pas fidèle. En quoi n'es-tu pas fidèle? Examine ton cœur. Dans ta marche avec le Seigneur, tu n'es pas fidèle. Oh mon Dieu, ta parole a touché les cœurs. Et cette parole est vie. Seigneur mon Dieu, je t'en prie, aide-nous à faire l'examen de nous-mêmes. À faire l'examen de nous-mêmes, Seigneur, de nos manquements, de ce manque de fidélité dans notre marche avec toi, de constance. Seigneur, que nous ne soyons pas comme des feuilles soufflées par le vent qui s'en vont ici et là. Combien d'entre nous sommes infidèles à ton Église, Seigneur? Nous courons partout. Nous écoutons toutes sortes de choses contradictoires qui nous troublent, Seigneur, et nous avons des indigestions spirituelles. Combien d'entre nous sommes infidèles, même dans nos dîmes et dans nos offrandes? Combien d'entre nous sommes infidèles, Seigneur, à la prière, à l'intercession, infidèles à la lecture de ta parole, infidèles dans notre marche de vérité, de sainteté, de justice? Nous sommes censés te représenter, et Seigneur, nous sommes infidèles, toi qui étais fidèle jusqu'au bout. Seigneur, pardonne. Pardonne cette infidélité, ô Dieu. Nous nous jetons à tes pieds, nous nous humilions, Seigneur. Oui, Seigneur, si nous étions tous fidèles, ton Église serait plus forte, le témoignage serait plus fort, l'influence que nous devons exercer dans ce monde serait plus forte, ô Dieu. Pardonne, Seigneur. Ô mon Dieu, que la chair ne nous retienne pas continuellement, Seigneur. La fatigue naturelle, la lassitude et toutes ces choses, Seigneur, qui nous viennent dessus sans que ce soit directement l'ennemi, mais l'ennemi est tout content, Seigneur mon Dieu. Ô Jésus, que cette chair soit crucifiée. Merci mon Dieu, tu nous as parlé. Aide-nous à ne pas oublier, et à mettre en pratique. Au nom de Jésus. Nous sommes là pour vous aider, frères et sœurs. N'hésitez pas à venir nous parler. Parlez à nos conseillers qui seront à l'extérieur. Priez avec vous. Nous voulons vous aider. Que le Seigneur nous donne d'être fidèles. Et c'est ainsi que nous prouverons véritablement notre foi. Il ne peut pas y avoir de vraie foi sans fidélité. Impossible. Nous allons prier pour les offrandes maintenant. Seigneur, nous voulons t'apporter nos offrandes, aide-nous à être fidèles aussi dans nos offrandes. Il est vrai, Seigneur, que nous sommes dans le besoin, beaucoup d'entre nous. Pas de travail, chômage, des grandes familles, et tant de besoins. Mais Seigneur, tu ne nous demandes pas de donner au-delà de nos possibilités. Seulement la partie qui te revient. Seigneur mon Dieu, aide-nous à être fidèles en cela. Bénis tous ceux qui donnent, Seigneur, et sanctifie cette offrande au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.